Bonjour Nicolas, et oui, j'ai été voir Thibault Louis qui vient de copublier une étude qui a donné une nouvelle mesure de la constante de Hubble. Pour y arriver, lui et ses collègues ont utilisé la méthode indirecte, c'est-à-dire celle qui vise à étudier le rayonnement fossile, le fond diffus cosmologique, comme ce qu'avait déjà pu faire le satellite Planck. Alors eux ne sont pas partis de l'analyse de Planck, ils sont partis des données issues du télescope d'Atacama au Chili, qui a l'avantage d'avoir un plus grand miroir et donc de fournir une plus grande résolution dans ce rayonnement. Alors, leur mesure indique une valeur de H0 de 67,9 km par seconde par mégaparsec, une mesure qui vient conforter bien sûr la valeur la plus basse déjà établie, mais qui ne permet pas pour autant d'apaiser la tension dans le débat.
Alors, il y a un grand débat aujourd'hui sur la valeur de la constante de Hubble. Il y a deux mesures pour l'instant qui diffèrent. Il y avait la mesure du satellite Planck qui est autour de 67 km par seconde par mégaparsec. L'équipe d'Adam Riess, qui est notre équipe qui travaille sur ce sujet, eux font une mesure directe de cet effet d'expansion de l'univers et trouvent 73 km par seconde par mégaparsec. Et donc il y avait ces deux mesures qui étaient en désaccord. Et la question qu'on se posait, c'est finalement quelle mesure croire? Et nous, avec notre télescope, qui est le télescope cosmologique d'Atacama, on a refait une mesure de cette constante de Hubble et on est tombé en plein sur la valeur de Planck, autour de 67 km par seconde par mégaparsec. Donc notre but, c'était d'abord de vérifier et de confirmer si on pouvait faire confiance à ce résultat du satellite Planck, et c'est ce qu'on a fait dans cette étude. On a bien prouvé que quand on mesure le fond diffus cosmologique, donc la première lumière de l'univers, on tombe bien sur une valeur du taux d'expansion de l'univers autour de 67 km par seconde par mégaparsec.
Alors vous avez utilisé à peu près la même méthode que celle du satellite Planck, qui lui est dans l'espace, il a franchi de l'atmosphère. En revanche, avec ce télescope, vous avez pu bénéficier d'une plus grande résolution.
Ouais, exactement. Le problème de l'espace, c'est qu'on ne peut pas envoyer de grands télescopes. Alors qu'au sol, on est assez libre de faire de grands télescopes. Et donc la différence vraiment principale entre notre télescope et le satellite Planck, c'est la taille du miroir. Nous, on a un miroir de 6 mètres qui nous permet d'avoir une grande résolution angulaire, alors que Planck avait seulement un miroir d'1,50 m. Donc les deux approches sont complémentaires. On a des mesures de l'espace affranchies de l'atmosphère et des mesures du sol avec des grands télescopes qui ont le problème de l'atmosphère, mais qui permettent vraiment de regarder les petites structures du fond diffus cosmologique.
Donc en pratique, vous regardez cette carte et donc les fluctuations, et c'est comme ça que vous évaluez les distances.
Oui, alors on a tout un modèle cosmologique qui nous explique l'origine des structures dans l'univers. Ce qui se passe, selon notre théorie, c'est que des petites fluctuations quantiques, en fait, sont étendues de façon exponentielle pendant cette période d'inflation de l'univers et donnent lieu aux grandes structures dans l'univers qu'on observe aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment le lien entre l'infiniment petit, la physique quantique, et la cosmologie, l'étude des grandes structures dans l'univers. Après, on a tout un scénario physique d'évolution de ces fluctuations qui passe par vraiment une modélisation détaillée de la physique du plasma que constituait l'univers à l'époque. Et donc, on a notre modèle théorique qui nous permet vraiment de comprendre l'évolution de ces fluctuations. On le compare avec notre observation du fond diffus cosmologique, et en comparant les deux, ça nous permet d'inférer ce qu'on appelle les paramètres cosmologiques, et notamment le contenu de l'univers. Si on connaît le contenu de l'univers, on est capable de prédire, en utilisant la théorie de la relativité générale, son évolution, et donc de prédire son taux d'expansion aujourd'hui. Et quand on fait ça, on trouve bien 67 km par seconde par mégaparsec.
Comment on aboutit à cette valeur vraiment? Qu'est-ce que vous mesurez concrètement?
Donc ce qu'on mesure, nous, c'est des petites fluctuations de température sur cette carte. En fait, le fond diffus cosmologique, c'est une image du plasma que constituait l'univers 300 000 ans après le Big Bang. Nous, on mesure précisément la taille et l'aspect de ces fluctuations-là.
Ok, donc là on est devant votre publication.
Donc nous, ce qu'on mesure, c'est vraiment ça. On fait des cartes du fond diffus cosmologique et on mesure leurs propriétés statistiques. Et notamment, on mesure un observable qu'on appelle la fonction de corrélation à deux points, qui nous dit simplement, globalement, statistiquement, de quelle taille doivent avoir ces fluctuations. Et ce que je vous montre ça, et ce que je vous montre ici, c'est exactement ça. C'est une fonction de corrélation à deux points des fluctuations de température et de polarisation du fond diffus cosmologique. Et c'est en comparant les points de données, là, que vous voyez en bleu et en orange, avec le modèle théorique, qui est cette ligne grise continue, qu'on arrive justement à inférer quel était le contenu de l'univers à l'époque de l'émission du fond diffus cosmologique. En fait, c'est une courbe dont la valeur et les différents features que vous observez ici vont dépendre justement de la constitution de l'univers. Imaginons qu'on ait moins de matière morte, par exemple, vous verrez que cette courbe changerait. La taille de ce pic-là, notamment, changerait. Imaginons que la constante cosmologique, donc en fait, ce qu'on pense, c'est l'énergie noire dans l'univers change, vous verrez que tous les pics seraient shiftés d'un côté ou de l'autre. Et donc, grâce à l'observation et à la mesure détaillée de tous ces points et la comparaison avec le modèle, on arrive vraiment à mesurer tous ces paramètres.
Quelle sera alors pour vous la suite de ce travail-là? Comment on peut encore améliorer techniquement la prise de mesure?
Alors, comme on vient de dire, on a deux mesures qui sont en désaccord. Comment on fait pour progresser sur la résolution du problème? Alors, il y a énormément de gens qui travaillent dans la communauté de l'étude, justement des supernovae, qui travaillent sur de nouvelles techniques pour vérifier le résultat qui a été publié par l'équipe d'Adam Ries, avec plein de détails astrophysiques sur l'explosion d'étoiles, donc les supernovae, qui sont vraiment le jalon de cette mesure. Et nous, d'un point de vue du fond diffucosmologique, ce qu'on peut faire, c'est mesurer encore plus précisément les propriétés du plasma, et notamment pour aborder une autre hypothèse qui est finalement peut-être que les deux mesures sont justes. Notre mesure basée sur l'univers primordial serait juste, et celle d'Adam Ries, qui est une mesure locale, directe de l'expansion de l'univers, serait juste aussi. Mais ce qui doit changer, c'est notre modèle d'univers. On aurait peut-être manqué d'un petit composant, notamment au début de l'univers, quand l'univers était très primordial, peut-être qu'il y avait un nouvel type de matière ou un nouveau phénomène physique qu'on n'aurait pas envisagé et qui permettrait de réconcilier les deux mesures. Finalement, si ça se trouve, l'erreur n'est pas dans les mesures, elle est dans le modèle. Et c'est ça ce qu'on essaie de vérifier avec la nouvelle génération d'observations du fond diffucosmologique. Parce que si ce phénomène existe, non seulement il pourrait expliquer le désaccord de la constante de Hubble, mais il prédit aussi d'autres phénomènes qu'on pourra mesurer si on a une grande précision sur ces mesures du fond diffucosmologique.